Radio Okapi. Le journal, présenté par Noëlla Lozitou Kabambi.
Une question orale avec débat a été adressée ce mercredi par le sénateur Ladi Yangotila Kasenga au ministre des Transports et Voies de Communication. Il veut savoir comment la population congolaise et les candidats aux prochaines élections vont-ils se déplacer alors que la compagnie d'aviation publique Congo Airways est clouée au sol depuis un mois déjà. Un homme armé en tenue militaire a été neutralisé hier soir sur la route Kilijiwe au quartier Majengo, ville de Goma. Si certaines sources locales parlent d'un combattant déployé à Nyiragongo, le porte-parole de gouverneur du Nord Kivu affirme, lui, que c'est un groupe de bandits qui a été neutralisé par une patrouille des militaires. Docteur Julien Kikasamira, médecin directeur de l'hôpital général de Kadutu à Bukavu, est l'invité de ce journal. Avec Rachel Kiesembangu, il revient ici sur la gratuité de la maternité qui a été lancée au Sud Kivu depuis le 1er octobre dernier. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Comment la population congolaise et les candidats aux prochaines élections vont-ils se déplacer alors que la compagnie d'aviation publique Congo Airways est clouée au sol depuis maintenant un mois? C'est la question orale avec débat du sénateur Ladi Yangotika Lasenga, adressée ce mercredi au ministre des Transports et Voies de Communication. Pour ce sénateur de la province de la Tchopo, il n'est pas normal que ce grand pays aux dimensions continentales n'arrive pas à avoir deux compagnies d'aviation, deux compagnie viable. Il exige des explications du ministre afin d'amener le gouvernement à trouver rapidement des solutions pour désenclaver les provinces. Ladi Yangotika Lasenga est au micro de Michel Kifindangoy.
Le déplacement de peuple congolais pose un sérieux problème. De deux, en écoutant le chef de l'État qui a déposé sa candidature, nous avons tous compris que la volonté du président de la République, du président de la CENI et de nous en tant que Congolais est que les élections s'organisent. Mais il y a des préalables. Comment les candidats vont se déplacer lorsque la flotte des Congo Airways est par terre et que ces pays à dimension continentale n'arrivent pas à avoir plus de deux sociétés d'aviation? La seule société d'aviation qui nous reste va être submergé au point que, écoutez, tout ce que l'homme a fait, il a copié dans le fonctionnement de l'organisme humain. Lorsque vous surchargez le corps va finir par craquer. Ne soyez pas étonné un jour, je ne le souhaite pas, qu'il y ait des crashs d'avion. Voilà pourquoi nous voulons que le ministre des Transports vienne nous éclairer. Nous en sommes où? Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, le personnel de Congo Airways, puisque la société ne fonctionne pas, comment seront-ils payés?
Processus électoral encore. Parlons de cette directive du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, qui appelle entre autres les directeurs des programmes des organes de presse à l'autorégulation de leurs émissions avant toute diffusion. Christian Bossembe, président de cette institution, l'a déclaré hier ici à Kinshasa lors d'une conférence de presse consacrée essentiellement sur la gestion des impacts des réseaux sociaux. Christian Bossembe dans cet extrait sélectionné par Paul Matendo.
Je vous présente donc quelques innovations. Vous aurez certainement le contenu, mais voici en si peu de mots les grandes innovations de notre directive. La responsabilisation des acteurs sociaux et animateurs des débats publics. La participation des directeurs de programme à l'autorégulation interne des médias avant la diffusion. L'interdiction de la publicité illicite dans les réseaux sociaux sans l'avis du CESAC. La responsabilisation des hébergeurs, fournisseurs et internautes au respect des textes légaux et réglementaires. Nous appelons donc à la conscience de tous les utilisateurs de réseaux sociaux, à tous ceux qui ont de compte de bien vouloir se rappeler que désormais, avant chaque clic, avant chaque tweet, ils doivent penser aux conséquences parfois irréversibles.
Parlant des prochaines élections de décembre 2023, le président du CESAC interdit à tous les médias de se livrer à l'exercice de la pré-campagne électorale. Et puis, la police nationale congolaise d'Oicha, dans le territoire de Beni au Nord Kivu, se dit prête à 90% pour la sécurisation des élections de décembre 2023. C'est après une série de formations dont ils ont bénéficié de la part de la police de la MONUSCO UNPOL. Hier mardi, une première vague d'environ 150 policiers a mis en en œuvre un scénario imaginaire de maintien et rétablissement de l'ordre public dans un centre de vote. Une démonstration faite en présence du chef de la composante police de la MONUSCO, le général Modi Berrette, en mission à Oicha. Sadiki Aboubakar était sur place. Voici son reportage.
Nous sommes devant un bureau de vote. Une dizaine de policiers, armés de bâtons et boucliers, font face à de nombreux manifestants qui demandent l'annulation des élections dans ces centres où ils estiment avoir constaté de la fraude. La tension monte d'un cran, c'est la débandade. Le commissaire supérieur adjoint François Kalonda, commandant local de la Légion nationale d'intervention Léni, explique le scénario.
Nous avons simulé une situation d'un bureau de vote d'une personne mal intentionnée, sortie de là en criant qu'il y a eu bourrage des urnes. Alors, le scénario consistait à ce qu'on puisse évacuer les gens qui étaient autour du centre de vote pour laisser que le vote puisse continuer.
Le commandant intérimaire de la PNC dans le territoire de Béni, le commissaire supérieur principal Michel Mbala, plaide pour la dotation en matériel des policiers formés pour leur efficacité.
La musique ne sert à rien si le public est sourd. Par là, je voudrais dire ceci. Les experts sont là, ils nous entraînent, mais il y a un problème de matériel qui se pose. Donc, ce qui fait que même après l'entraînement, si nous n'avons pas d'équipement, donc ça ne sert à rien.
Le général Modi Berrette, commandant de la police de la MONUSCO, s'est réjoui de cette démonstration qui justifie, selon lui, l'accompagnement de la mission dans le processus électoral en cours en RDC. Des retours de Oicha, Béni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
En plus bref, notez l'arrivée ce mercredi à Kinshasa du président de la transition au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Il va rencontrer cet après-midi le président Félix-Antoine Tshisekedi au palais présidentiel. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema effectue une tournée diplomatique dans la sous-région pour sensibiliser ses homologues de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, afin que son pays réintègre cette organisation dont il est suspendu depuis le 30 août dernier, note la présidence de la République congolaise. Un homme armé et en tenue militaire a été tué dans la soirée autour de 19h hier mardi sur la route Kilijoué au quartier Majengo, ville de Goma en Nord Kivu. Certaines sources locales affirment que ce dernier serait un combattant en déploiement de Masisi pour Niragongo. Pour sa part, le porte-parole du gouverneur parle, lui, d'un groupe de bandits neutralisés par une patrouille de militaires. Bernard Denyangui.
Les tirs nourris qui ont accompagné cet incident autour de 19h hier ont semé la panique dans ce quartier nord de la ville de Goma. Quelques témoins parlent des trois combattants locaux, apparemment en provenance de Masisi à moto pour le territoire de Niragongo, qui se seraient disputés avec un autre motard en état d'ébriété. Alors que les éléments de la garde républicaine tentaient d'intervenir, la situation a tourné à un échange de tirs à l'issue duquel un combattant a été tué, ses deux coéquipiers arrêtés et les deux armes qu'il détenait récupérées par les GR. Ces sources affirment que cet énième incident de genre dans cette partie nord de la ville où de plus en plus de bandits armés circulent. Les dix combattants, qui s'appellent les Wazalendo, et des éléments incontrôlés des forces de sécurité, sèment ainsi une confusion généralisée. Contacté, le porte-parole du gouverneur militaire affirmait, lui, que la patrouille de l'armée est plutôt intervenue en réponse à une alerte du chef de quartier concernant une opération de vol de motos par des hommes armés non identifiés. Selon le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, la patrouille s'est approchée du lieu, tombant sous le feu d'hommes armés non identifiés, auquel feu il a tout de suite répliqué afin de neutraliser les auteurs. Goma, Bernard Dengangui, Radio Okapi.
De la province du Sud Kivu, nous avons appris ce mercredi l'attaque d'un site minier qui a fait 4 morts et plusieurs blessés graves dans la nuit de dimanche 8 octobre dernier au site minier d'or d'Akiemba à Misisi, groupement de Basikasilu, secteur de Nganja. L'administrateur de Fizi confirme cette information et indique que parmi les morts figurent des exploitants chinois et des militaires des FRDC. Sami Kalonji, Badibanga Wabadibanga, joint par Emmanuel et la Medjua Kabedi.
Les bandits armés munis des AK-47 ont fait irruption dans la concession. Les Chinois qui exploitent le minerai d'or à Akimba, à Misisi, en groupement de Basikasilu au secteur d'Nganja. Il y a eu échange de coups de balles entre ces assaillants et nos éléments des FRDC commis à la carte de ces étrangers. Le bilan de ces affrontements, il y a eu 4 morts, dont 2 Chinois. Et du côté congolais, nous avons le sergent-major du 3305 et le sergent-major. Tous ont trouvé la mort. Il y a eu aussi 2 blessés, parmi lesquels un sujet canadien, l'interprète de ces Chinois, touché à la jambe droite. Ces assaillants gens qui ont fait éruption pour la deuxième fois dans la concession des Chinois ont emporté tous les téléphones des valises pleines d'argent et aussi les documents migratoires dont le passeport ont été emportés. Ces assaillants seraient venus des Kalonda Kibuye comme d'habitude.
Restons au sud Kivu. Notez aussi l'évasion lundi dernier de 15 détenus de la prison de Lubero Centre, chef-lieu du territoire de Lubero. Selon des sources sécuritaires, certains évadés sont des condamnés pour des infractions graves. L'administrateur du territoire de Lubero annonce l'arrestation des policiers qui étaient commis à la garde de la prison. Martial Papimukeba.
L'évasion à la prison de Lubero Centre est intervenue lundi aux environs de 3h du matin. Selon des sources sécuritaires, ils sont 15 détenus condamnés pour viol et vol à main armée. Ils se sont servis d'une scie à métaux pour couper la grille de la prison, ce qui leur a permis de s'évader vers une destination inconnue. D'après les mêmes sources, celle des policiers était commis à la garde de la prison. Ils ne seraient pas intervenus pendant l'évasion des détenus, ajoutent nos sources. L'administrateur du territoire de Lubero annonce leur arrestation et l'ouverture d'une enquête. D'après le colonel Anle Kiwewa, une femme présumée complice de l'évasion vient également d'être interpellée. Elle est accusée d'avoir facilité l'entrée dans la prison de la scie à métaux dont se sont servis les détenus pour s'évader. Pour l'instant, les fugitifs sont toujours dans la nature et les recherches se poursuivent pour tenter de ramener les 15 évadés dans cette maison carcérale qui héberge actuellement 31 détenus. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
En Ituri, les opérations militaires conjointes FRDC-MONUSCO ont permis de démanteler le bastion du groupe armé Codeco réfractaire au processus de paix au village de Masikini dans le territoire de Djougou. Selon les autorités coutumières locales, de nombreux déplacés qui avaient fui les exactions de ce groupe armé ont regagné leur village. Le trafic est également fluide sur la route nationale numéro 27 où ces miliciens tendaient des embuscades contre les usagers de route. Isaac Raymond.
C'est depuis le 2 octobre dernier que les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO ont lancé l'offensive contre un groupe de miliciens de la Codeco réfractaires au processus de paix dans le secteur de Walendu-Dzatsi, dans les territoires de Djougou. Selon des sources locales, ces hommes armés s'étaient transformés en coupeurs de route sur la RN27, appuyant les véhicules et ils dépouillaient les passagers de leurs biens. Selon les chefs de secteur de Walendu-Dzatsi, ces opérations ont permis de rétablir la paix dans ces milieux. Le bastion de cette milice de Masikini a été détruit. De nombreux déplacés qui avaient fui les exactions de ces inciviques ont déjà regagné leur village d'origine. Ces opérations ont également permis d'écarter les menaces de ces groupes armés sur la route nationale numéro 27. Juste Goudza, chef de secteur de Walendu-Dzatsi.
On a réussi à mettre ça, les défendus du département de Codeco. Bon, le dispositif d'abord de sécurité sur la RN27 est permanente. La force de la lutte est en train de suivre vraiment en permanence, ce qui permet à ce que la circulation se poursuive normalement.
Cette autorité coutumière plaide pour l'assistance humanitaire aux retournés qui sont dépourvus de tout et dont les maisons ont été incendiées ou détruites. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans la province du Kwilu, dans l'ouest du pays, les déplacés internes de Kwamout, province de Maïndombe, vivant à Bandunduville et qui ont fui les violences du conflit Tekeyaka, ont organisé hier une marche pacifique dans la ville de Bandundu. C'est pour dénoncer le calvaire dans lequel ils vivent. Dans un mémo lu à l'Assemblée provinciale du Kwilu, ils affirment être abandonnés par le gouvernement, tant national que provinciaux du Kwilu et de Maïndombe, qui ne leur apporte aucune assistance. Ces personnes en détresse disent avoir plusieurs problèmes dont la non-scolarisation de leurs enfants, le manque de nourriture, moins encore l'accès aux soins de santé, ce qui a déjà occasionné plus de 69 décès. Ces déplacés demandent des moyens financiers pouvant leur permettre de se rendre dans leur village d'origine. Un reportage de Irène Bomaluzolo.
C'est dans l'avant-midi d'hier mardi, sous un soleil accablant, que ces déplacés de Kwamout vivant à Bandundu ont pris d'assaut les artères principales de cette ville, direction Assemblée provinciale du Kwilu. Banderoles en main, ils ont scandé des slogans et chansons indiquant leur calvaire en tant que déplacés au chef-lieu de la province du Kwilu. Dans leur mémo, lit et remis entre les mains du représentant du président de cette institution parlementaire, ces déplacés expriment leur ras-le-bol et en appellent à l'intervention du gouvernement congolais. voler.
Nous avons des problèmes qui nous dépassent, surtout les problèmes des décès. Les gens meurent, il n'y a pas d'assistance. Nous demandons aux autorités de prendre soin de notre problème. Je parle en tant que le représentant du déplacé. Nous n'avons pas d'argent, si même aujourd'hui on donne à chacun quelque chose. Nous allons quitter ces pavillons, nous allons rentrer même dans nos villages d'origine. Parce que pas jusque-là avec ces souffrances-là. C'est trop et nous sommes fatigués.
Pour sa part, les représentants du président de l'organe délibérant du Kwilu, Donatien Enoane, a promis de faire part à sa hiérarchie. Précisons que cette marche pacifique des déplacés a été encadrée par la police et est partie de leur site situé au quartier Malebo pour chiter au siège de l'Assemblée provinciale. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
L'invité. L'invité de ce journal, c'est le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kadutu dans la ville de Bukavu au sud Kivu. Docteur Julien Kasamira parle de l'effectivité de la gratuité de la maternité au sein de cet hôpital. Il s'entretient avec Rachel Kiesembango. Suivez.
Docteur Julien Kasamira, bonjour.
Bonjour.
Vous avez lancé la maternité gratuite. Dites-nous de quoi il s'agit.
On a lancé la maternité gratuite ici chez nous, dans la zone de santé de Kadutu et dans plusieurs autres zones de la province du Sud Kivu, sur instruction de notre hiérarchie, la décision prise par le chef de l'État. La gratuité de la maternité concerne les femmes enceintes dès la conception jusqu'à l'accouchement. Donc ça voudrait dire que les consultations prénatales, les consultations post-natales, les consultations préscolaires, les accouchements étossiques, ça veut dire les accouchements qui se passent sans intervention extérieure, les accouchements dystosiques, les accouchements pour lesquels on peut avoir intervenu un peu, mais aussi les césariennes sont concernées par cette subvention. Mais aussi la prise en charge des nouveaux-nés de 0 à 1 mois.
Y a-t-il un nombre limité des femmes pour bénéficier de cette gratuité?
La gratuité, c'est pour toutes les femmes enceintes, comme nous avions dit. Selon l'injonction que nous avions reçue de notre hiérarchie, il n'y a pas vraiment un nombre limité.
À l'attention de nos auditeurs, comment cela se fait? Quelle est la procédure à suivre pour les femmes qui vous suivent, qui sont enceintes? Comment elles doivent se présenter? Qu'est-ce qu'elles doivent remplir comme conditions s'il y en a?
Il n'y a pas de conditions et moi je crois que c'est une opportunité pour toutes les femmes enceintes de la commune de Kadutu en particulier, mais aussi de la ville de Bukavu en général, parce qu'il n'y a aucune condition. La condition, c'est d'être enceinte. Donc si on est enceinte, ça voudrait dire qu'on peut bénéficier de cette prise en charge.
Depuis que vous avez sorti et libéré les premiers lots des femmes qui avaient accouché ici à l'hôpital général de Kadutu, combien de femmes ont déjà bénéficié de cette gratuité?
Le nombre, je ne le maîtrise pas encore exactement, mais vraiment c'est une dizaine. Le premier lot que nous avions qui est sorti à partir du vendredi, c'était un nombre de 6. Et déjà aujourd'hui, le deuxième lot va devoir sortir. Depuis le lancement de la gratuité de la maternité, on a remarqué qu'il y a vraiment une fréquentation élevée par rapport à avant pour les services de la maternité. Et il y a quand même des nouveaux-nés que nous sommes en train de prendre en charge en fonction de ce qu'ils présentent comme facteur infectieux.
Et vous, en tant que médecin, directeur de cet hôpital, que pensez-vous de cette décision?
Moi, je crois qu'elle est la meilleure. Elle est la meilleure, la décision du chef de l'État. Avoir pensé à la population congolaise en termes de gratuité de la maternité. Mais bon, nous attendons voir. Nous pensons que c'est bien d'y avoir pensé. Et c'est encore bien de penser à nous aussi, les structures sanitaires, pour que la gratuité puisse être vraiment effective.
Comment vous faites maintenant avec l'État? Est-ce que l'État vous donne une certaine subvention ou bien par rapport aux frais que les femmes payaient, les factures sont payées comment?
Au fait, la gratuité, c'est la gratuité par rapport aux malades parce que le gouvernement congolais, au travers ses partenaires, il y a la Banque mondiale qui a, au travers les lobbying du gouvernement congolais, qui va subventionner cette activités au niveau des hôpitaux qui ont été sélectionnés. Donc ce n'est pas totalement une gratuité, selon l'information à notre disposition. C'est la gratuité, oui, les gouvernements, les chefs de l'État y veulent de sa communauté, mais ça sera subventionné par les gouvernements congolais au travers de la Banque mondiale.
Donc vous, les hôpitaux, vous ne perdez rien?
Jusque-là, nous pensons que nous ne perdrons rien. Et si ça continue avec cette allure et que si ça se concrétise, nous avons foi que ça va se concrétiser. Nous pensons que ça pourra être tant soit peu et un ouf de soulagement par rapport aux hôpitaux parce que nous fonctionnons dans un système d'autofinancement. Il y a les personnels des structures qui ne sont pas payés par l'État. Il y a d'autres qui sont payés. Donc vous comprendrez qu'il y a des contraintes. Des contraintes et que si ça se concrétise, ça peut nous aider. Mais on ne peut pas clôturer cette interview sans faire un cri d'alarme à nos autorités. L'hôpital général de Kadutu, c'est un ancien hôpital de la zone de santé de Kadutu, mais qui fonctionne avec les moyens de bord et très difficilement, parce qu'il est sous-équipé, mais aussi avec un personnel qui n'est pas payé. Nous lançons un cri d'alarme au gouvernement congolais de devoir penser encore à son hôpital en termes d'équipement, en termes de formation des personnels, pour que nous puissions prendre en charge nos malades dans toute leur globalité.
Je vous remercie.
Merci.